Vous êtes à Boulevard 102.1 Gravel dans le retour, qui est là jusqu'à 18h. Denis qui est en congé, qui revient lundi prochain. Je regarde la circulation en ce moment, c'est bien installé les problèmes là, sur la capitale direction Est. Entre Henri IV et Laurentienne au ralenti, Ouest hauteur Laurentienne, d'ailleurs Laurentienne Sud, dans la bretelle pour aller chercher capitale Ouest, déjà difficile. Char et Est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa. Henri IV, direction sud, à partir de Versant Nord, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Pour ce qui est de la rive sud, ça va quand même bien jusqu'à maintenant, évidemment, autre chose. 88-971-1021, texto. Je ne sais pas exactement comment on se sent si on est dehors, mais d'ici, avec les fenêtres, fait beau. Le ciel est bleu. Il a l'air de faire chaud. On est à moins 10, par exemple.
C'est une illusion.
Oui, c'est une illusion. Je dirais qu'avec le
ciment éolien, moins 21.
Oui, c'est ça, j'allais dire. On est entre moins 19, moins 20, à peu près. Fait que c'est quand même frais, là, ce soir et cette nuit, moins 11. Pour ce qui est de demain, on va être à 1 degré. C'est généralement nuageux. Et à partir de samedi jusqu'à mardi prochain, on est au-dessus de zéro avec de la bonne pluie, là, je vous dirais. Là. Fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, des 60% de possibilité d'averse, ça m'épaterait que ça change. Fait qu'on va profiter du soleil aujourd'hui et de celui de demain si tout se passe bien. On va faire un petit tour, j'allais dire d'actualité, mais plutôt d'actualité municipale sur une conférence de presse qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui du maire de Québec, Bruno Marchand. C'est Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, qui est allé et qui nous a sorti quelques extraits sur le plan de Saint-Roch qui a été annoncé. La Ville de Québec qui va investir plus de 80 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui habitent le secteur. Antonine, t'as regardé un peu tout ça tantôt, là.
Oui, parce qu'on sait, hein, l'état des choses dans Saint-Roch, ça a été un enjeu de l'élection municipale. Ça fait beaucoup jaser. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des commerçants qui s'en vont. Mm-hmm. On voit des gens qui allaient magasiner dans Saint-Roch, mais qui n'ont plus envie d'aller magasiner dans Saint-Roch parce qu'il y a de l'itinérance, parce qu'il y a des enjeux de santé mentale. Puis, ben, ça fait
une histoire de sécurité aussi avec des travailleurs dans le secteur.
De sécurité. Puis, ça fait malheureusement boule de neige, hein, souvent, ces choses-là, parce que moins il y a de clients, moins il y a de commerçants, moins plus les commerçants s'en vont, moins on a le goût d'y aller. Moins, c'est quand tu as un local qui est vide à côté de ta boutique, ben ça te donne envie aussi de quitter. Donc, les partis se sont positionnés pendant l'élection municipale et M. Marchand nous avait promis des investissements, un plan de 100 millions. Là, on va se démêler dans les millions. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est 80 millions d'investissements pour le quartier Saint-Roch d'ici 2029. Donc, il va y avoir d'autres annonces éventuellement.
On y est allé large sur le Saint-Roch aussi, de ce que je comprends, les annonces.
Oui, on y est allé un peu plus large. C'est quoi les projets d'infrastructure là, dont on parle? Le stade Canac, l'édifice Joseph-Ernest Grégoire, l'église Saint-Roch, des surfaces multisports du parc Victoria, terrain de tennis aussi du parc Victoria, centre de services du quartier. Et autres installations sportives encore au parc Victoria. Et le maire Marchand nous dit aussi que ça, c'est des investissements qui sont publics, municipaux, mais on compte aussi sur des projets d'investissement privé dans le quartier. Donc, effectivement, il y avait une conférence de presse ce matin et Mathias était là pour poser des questions et nous ramener un peu le pouls de ce qui s'était passé. L'objectif de cette enveloppe-là, c'est de bâtir le quartier petit projet par petit projet parce que c'est une grosse bouchée à prendre. Moi, je me souviens plus quel membre de ma famille disait « un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois ».
Tes parents avec Denis Gravel?
Ah, pour vrai? C'est une expression qu'on partage. C'est mon oncle. OK, bon. Je vous l'annonce, je suis la nièce de Denis Gravel. Et M. Marchand explique que il va nous faire une analogie, on va entendre l'extrait dans un instant, mais que le but, c'est pas de tout faire en même temps, c'est d'y aller pas à pas. On vise pas nécessairement de faire un coup de circuit avec ces investissements-là, mais on veut avancer.
Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont marché, puis je pense que ce qu'on fait, l'addition, ce qu'Hélène a bien nommé, l'addition des mesures, on ne vise pas un grand chelem. Un grand chelem, là, ça ne sera pas suffisant. Ce qu'on vise, c'est bâtir manche par manche, quelque chose qui va donner un résultat pour lequel on va pouvoir bâtir là-dessus pendant des années, voire des décennies. Et présentement, moi, je pense que les deux dernières années témoignent de ces résultats-là qu'on additionne. Après ça, qu'est-ce qui va pouvoir déterminer qu'on a réussi? Seul le résultat. La promesse n'est pas suffisante. Le plan n'est pas suffisant. Il va falloir livrer.
Donc, on parle d'un 80 millions pour la revitalisation de Saint-Roch, on parle d'un 60 millions pour des infrastructures, mais pendant la campagne électorale, on nous avait parlé de 5 projets majeurs et c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pas juste des investissements municipaux dont on va avoir besoin pour notamment le réaménagement de la place Jacques-Cartier, l'îlot Fleury aussi, là, qui est un endroit qui a besoin drôlement d'amour, le parc Gilles-Lamontagne, la marina de Saint-Roch et le jardin Jean-Paul Lallier
qui avait fait
les nouvelles, qui était à l'abandon, et même la veuve de l'ancien maire Jean-Paul Lallier qui était sortie pour dire que ça lui faisait bien de la peine de voir un parc au nom de son feu mari devenir finalement un endroit assez déprimant. Merci. Donc, il s'est fait poser la question, le maire Marchand, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'annonce pas là, carrément les 5 projets? Voici sa réponse.
C'est un minimum. Quand on vous a parlé en campagne, et on y croit. Puis aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à faire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a un temps de planification important. Les cinq grands endroits, l'îlot Fleury, Place Jacques-Cartier, Parc Jean-Paul Lallier, le Parc Gilles-Lamontagne, la Marina Saint-Roch, qu'on va rénover d'ici 15 ans, on va là. Ce n'est pas une promesse, on va là. Pourquoi présentement, on n'annonce pas qu'on fait un ou l'autre? Pour deux raisons. Parce qu'on a besoin de planifier les choses. Ce sont de grands travaux de rénovation. Ce n'est pas simple pour la ville de trouver tous ces argents-là pour faire en sorte de faire vite. De procéder vite. Fait que oui, on a besoin des investissements du gouvernement du Québec.
Je me questionne tellement. T'sais, oui, on veut que le gouvernement investisse. Le gouvernement a beaucoup de difficultés à investir. On connaît l'état des finances publiques à ce moment-ci. Puis je trouve que dans ces projets-là, il y en a certains que la Ville semble avoir simplement lâché prise. On parlait du parc Jean-Paul Lallier. Du moment où on a choisi que ça devenait un lieu d'itinérance, qu'on n'y mettait pas la sécurité, c'est comme si on avait fait... Hey, on fuck off,
faut
on abandonne.
Puis ben
que oui, là, maintenant ça. Que c'est pointé du doigt, ah, mais là, c'est allé beaucoup trop loin. Là, on va avoir besoin d'un investissement du gouvernement pour
tu
être capable de faire ça.
Tu trouves que les signaux n'étaient pas cohérents?
Je trouve que c'est zéro cohérent dans ces affaires-là. Puis on a cette fâcheuse tendance au Québec de laisser aller les affaires jusqu'à ce que tout s'effondre.
Jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix.
Plutôt que d'entretenir, jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix.
Ça devient urgent.
Exactement.
Souvent, ça coûte plus cher.
On l'a vu dans nos hôpitaux. Dans nos écoles, dans nos infrastructures routières, mais ça va aussi dans des parcs comme ceux-là. Au lieu de dire, hey, on va y mettre un peu d'amour une fois de temps en temps, puis ça demeure des responsabilités municipales. Je comprends que les villes actuellement, pour ce qui est de l'itinérance, on dit que le provincial doit s'en mêler. Mais ça, dans ce cas-ci, il y a beaucoup d'éléments qui, pour moi, sont de l'entretien d'infrastructures qui a été négligé qui mène à ça.
Oui, c'est vraiment un défaut qu'on a au Québec, le maintien des infrastructures, puis on attend toujours d'être rendu au pied.
Mais ce qui me fait rire,
mur.
C'est qu'on le nomme, on le nomme, on le nomme, mais il n'y a personne qui fait de changement à ce niveau-là.
C'est pas sexy. On se l'est déjà fait dire par des groupes d'ingénieurs. C'est plus sexy de couper un ruban pour quelque chose de neuf que de mettre de l'argent dans quelque chose qui est déjà existant juste pour le maintenir.
Oui, mais on n'est pas rendu à quelqu'un qui peut bien nous communiquer que, hey, ça ne sera pas sexy, mais il faut venir à base si on veut que la ville aille.
La mairesse Boucher l'avait fait il y a plusieurs années.
La mairesse Boucher était forte là-dessus. Elle avait bien des défauts, mais elle avait cette qualité-là. Elle disait souvent non à des projets en disant « Moi, c'est parce qu'il va falloir qu'on l'entretienne après cette affaire-là. » Bon, elle s'est fait un gigantesque Taj Mahal à Sainte-Foy. Hein. On n'a pas toujours la
comme
cohérence.
Mairesse de Sainte-Foy.
Comme mairesse de Sainte-Foy, mais comme mairesse de Québec, c'était parfois un peu différent. Donc, il va falloir retenir encore un peu notre souffle pour les projets dont on vient de parler, notamment ce parc Jean-Paul Lallier. Puis, tu sais, c'est sûr que l'administration Marchand numéro 2, ce plan-là, il était annoncé pendant la campagne municipale. Ouais. On est juste rendu au mois de mars quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais il y a eu quand même un mandat là, avant. Puis on a l'impression qu'on se réveille enfin sur Saint-Roch. Saint-Roch aussi, un des enjeux, c'est que, je vous le disais un peu en intro, c'est que ça fait boule de neige négativement, malheureusement. Le quartier commence à avoir une mauvaise réputation. Mmh. Et on dirait que dans le premier mandat, le maire Marchand avait tendance à dire aux gens, arrêtez d'en parler négativement, vous créez le problème.
Il y avait un conseiller municipal, c'est Pierre-Luc
Lachance,
son nom, qui avait dit c'est la faute aux médias si actuellement on parle négativement
exact.
De Saint-Roch. Puis c'est des commerçants qui avaient dû sortir en disant, wow, c'est pas la faute des médias, c'est qu'ils mettent en lumière des situations desquelles la ville ne se préoccupe pas.
C'est pas lui qui avait dit publiquement qu'il n'y avait pas de problème aussi?
Il avait dit qu'il n'y avait pas de problème,
ou c'est
effectivement.
Jonathan Julien?
Non, c'est pas... Oui, Jonathan Julien avait dit qu'il n'y avait pas de problème d'itinérance. Pas
ah,
à okay.
Okay.
Mais il n'était clairement pas allé se promener dans le coin. Puis je me souviens très bien de l'entrevue avec le maire Marchand en décembre 2024 dans nos studios, quand il parlait de Saint-Roch, puis qu'il semblait banaliser un peu la situation, puis que c'est Audrey puis moi qui lui avons dit « Hey, nous, on ne va plus dans Saint-Roch tout seul, on a la chienne. » Puis c'est comme si « Oups! Ah! Ah ouais! »
Ah, à ce point-là?
À ce point-là,
ben réalisait oui. ça.
Fait que les politiciens ne voient pas nécessairement le terrain. Ils voient ce qui leur est rapporté, mais ils ne vivent pas de la même manière que des gars et des filles qui décident d'aller là-bas, de vivre là-bas, de consommer là-bas ou d'avoir leur business sur place.
Oui, puis d'ailleurs, les gars et les filles, effectivement, tu sais, des fois, les gars ne réalisent pas les mêmes ouais. enjeux de sécurité que nous. Ça peut arriver. Puis je pense que l'attitude qu'avait des fois Pierre-Luc Lachance, qui avait certaines compétences, mais des fois, sur l'attitude... Ça jouait aussi dans la manière dont on a géré les choses avec Saint-Roch. Je me rappelle aussi d'une sortie de l'opposition à l'époque de Claude Villeneuve sur Saint-Roch, puis la réponse du maire, c'était ça. C'était, voyez, on crée des problèmes, mm-hmm. on crée des tempêtes dans des verres d'eau, puis finalement, on fait une mauvaise publicité au quartier. Donc, ça a été abordé ce matin, là, la question de la réputation de Saint-Roch. Est-ce qu'on peut revirer un peu les choses de bord, finalement? Mais M. Marchand dit qu'il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles non plus dans Saint-Roch.
Ce que je vous dis, c'est que, puis c'est pas la faute des médias, c'est qu'un commerçant qui ferme, on en entend parler pendant 3 jours. Un commerçant qui rouvre, je le vois pas passer. Puis savez-vous quoi? C'est pas de votre faute. L'article, il sera pas lu. L'article, il sera pas intéressant. Fait que vous avez un travail à faire, puis vous le faites bien. Ce que je dis, c'est que dans ce monde actuel, les bonnes nouvelles durent moins. Les bonnes nouvelles sont moins, et on le sait, c'est documenté par la science. Alors, des bonnes nouvelles, il y en a. Il y a des commerçants qui ont ouvert, qui ont pignon sur rue maintenant. Il y a des bonnes nouvelles en matière de diffusion culturelle, en matière d'investissement ici qui amène du monde.
Et légèrement de la mauvaise foi là-dedans, par exemple.
Je suis pas d'accord.
Tu sais, je peux pas parler pour tout autre média, mais quand il y a des choses qui ouvrent, on est premier à en parler.
S'il y avait un Benjo qui ouvrait sur Saint-Joseph, on en parlerait. S'il y avait un Mountain Co-op qui ouvrait dans Saint-Joseph, sur Saint-Joseph, on en parlerait.
Mais aux dernières nouvelles, ces deux gros locaux-là sont toujours vides.
Oui.
Mais il a raison sur un point. C'est vrai que les bonnes nouvelles, généralement, je veux dire...
Bonne nouvelle.
Mais pas à ce point-là.
Les galeries de la capitale, il y a une couple de semaines, ont annoncé des nouveaux commerces. Il va y avoir, c'est un Lululemon qui va ouvrir aux galeries de la capitale. Puis quand tu ouvres quelque chose, puis que ça répond à un besoin, les gens ont le goût de le lire, ils ont le goût de le savoir, puis ils ont le goût d'aller faire un détour. Puis il y a des gens qui font encore des détours pour des commerçants sur Saint-Joseph.
On en parle des bonnes nouvelles, mais il faut comprendre aussi, c'est sûr qu'une mauvaise nouvelle marque l'esprit parce que ça nous pousse à l'action. Mais on a besoin de se mettre en action. Quand on nous annonce que tout va bien dans un quartier, ben c'est tigidou, on n'a rien à faire. Alors que quand ça va pas bien, ben puis là, il faut mobiliser les gens.
L'accumulation de fermetures frappe aussi, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que il y a un billet qui se crée, là.
Il a sorti des chiffres dans la dernière année sur le taux d'occupation des locaux selon les SDC, les sociétés de développement commercial. Limoilou, il n'y avait pas un local de libre. Il y avait des commerces absolument partout. Puis là, quand tu te rends compte que, oups, ceux qui ont le plus de locaux de vide, c'est dans ce secteur-là, j'imagine que tu n'as pas le choix de te pencher là-dessus. Puis tu ne peux pas juste blâmer les gens et dire, oui, mais ils ne regardent pas ce qui ouvre. Tant que ça ne sera pas le même taux d'occupation qu'un Limoilou qui sait... Limoilou a fait ça naturellement. L'espèce de mixité citoyen, commerce, mode de vie, ça s'est fait naturellement. On n'a pas essayé d'arriver avec des millions puis dire « Hey, on va vous implanter des affaires, puis vous allez voir, les gens vont venir. » Puis le secteur de Saint-Vallier est un petit peu comme ça. OK, ça a été un peu charcuté avec les travaux au courant de la dernière année, mais tu sais...
Tu sais, des fois, on dirait que dans le quartier Saint-Roch, on parle beaucoup de l'itinérance, à quel point ça fait en sorte que ça donne pas le goût non plus. Puis tu sais, Véro, tu parles de Limoilou. Il y en a en passant de l'itinérance à Limoilou.
Il y en
a
partout maintenant.
Il y en a partout, mais je veux dire, il y en a, mais le fait qu'on prenne soin de ce quartier-là, que les gens se mobilisent, qu'il y a une belle mixité, que ça fait en sorte que c'est très faisable. Je me suis piqué une jasette avec quelqu'un en situation d'itinérance la dernière fois que je t'avais mangé sur la 3e avenue.
Parce qu'il y en, c'était y en super quartier, sympathique. Mais oui, Saint-Jean aussi, sauf que là, la nature a horreur du vide, puis ça s'installe beaucoup. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de ressources, par contre, dans
les
le secteur.
Les services
là,
sont souvent aussi concentrés dans certains quartiers également. Mais d'ailleurs, il y a été question quand même d'itinérance ce matin, pas dans la puisque l'annonce ne concernait pas spécifiquement l'itinérance, mais M. Marchand réitère que ça demeure un enjeu évidemment prioritaire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, s'attaquer à l'itinérance visible, ça devrait être une priorité. Ça devrait être la première à laquelle on s'attaque, prendre soin de notre monde. Puis on a des résultats. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on a des foutus résultats qui marchent. On est capable de sortir avec des organismes communautaires du monde de la rue, de les mettre dans des lieux où ils reprennent du pouvoir sur eux-mêmes. Mais tolérer que des gens vivent dans la rue en se disant « on ne peut pas faire autrement », selon moi, là, c'est un aveu d'impuissance qu'on ne devrait jamais faire. Jamais.
Frustré, M. Marchand.
Mais je pense que c'est un enjeu qui vient le chercher. Puis aussi, il faut comprendre, puis Mathias nous en parlait un peu cette semaine, c'est que M. Marchand fait partie, président du comité qui se penche sur l'itinérance à l'Union des municipalités du Québec. Pour les municipalités, l'itinérance, c'est vraiment un casse-tête parce que c'est pas dans les compétences municipales. Mais comme tu le disais si bien, Véro, ce sont les municipalités qui doivent gérer les impacts de l'itinérance en n'ayant pas toujours les moyens. Le système de santé et les ressources ne sont pas nécessairement sous la responsabilité municipale. Donc, évidemment, M. Marchand va essayer de faire en sorte que ça demeure ça aussi un engagement électoral important.
Il y a de la politique qui se fait là-dedans, exactement.
Tu vois, il y a un texto qui est entré, Amélie, qui dit, tu sais, quand un de tes restaurateurs préférés ferme 3 de ses restaurants sur 4 sur Saint-Joseph.
Sur Saint-Joseph et Saint-Vallier, effectivement.
À un moment donné, c'est parce que ça parle de soi-même. Là. Antonine, un gros merci pour le récapitulatif. Évidemment, on va se tenir au courant. Mathias, qui est toujours sur le terrain, en passant, si vous avez des idées de dossiers, des choses qui vous chicotent dans le coin où vous habitez, c'est citoyen@commercialblvd.fm, tout simplement. Gravel dans le retour qui se poursuit jusqu'à 18h. Denis est absent, si vous n'avez pas remarqué. Il revient lundi prochain en relâche. Antonine Iaccarini qui est avec nous. Véro, évidemment, je suis là également jusqu'à 18h. 88-971-1021, texto. Gravel. Boulevard. C'est déjà très lourd dans la circulation. Ça a commencé un peu plus tôt aujourd'hui. Si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, quand même lourd, quoique c'est un ralentissement qui est habituel, on va se le dire. Direction Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Charest et la capitale. Quelques ralentissements à prévoir sur Charest Est aussi, hauteur Robert Bourassa. Henri IV Sud, c'est plutôt à la hauteur de Charest jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Des problèmes aussi sur Duplessis-Sud à partir de Chemin Sainte-Foy jusqu'au pont. Pour ce qui est de la rive sud, c'est vraiment sur la 20 direction ouest, hauteur Taniata surtout. Au niveau de la météo, présentement, on est à moins 10 à Québec. C'est un peu une fraude, là, parce que ressenti, on est plus autour de moins 20. Mettons que le vent est relativement frais. Pour ce soir et cette nuit, moins 11 degrés. Ce sera 1 degré demain, généralement nuageux, mais quand même quelques éclaircies de soleil. Et à partir de samedi, ben,
Des éclaircies de soleil.
Wow. Je trouve ça cute. C'est comme des petits rayons. Là, des,
je pense
des
comme
éclaircies.
Un peu un pléonasme.
C'est un peu un asthme, vraiment. Des éclaircies de soleil.
C'est pas grave, c'est charmant.
L'autre fois, j'ai dit un ancien vétéran. Oh. J'ai comme un besoin, on dirait, d'appuyer pour le fait qu'on comprenne. Comprends-tu? Bref, tout ça pour dire que samedi, 10 degrés, il y aura de la pluie. Dimanche, 4 degrés, pluie également. Lundi, ce sera la même chose avec 6. Et le soleil qui devrait être de retour mardi, 2 degrés. Pour les fans de Shinedown, j'ai envie de vous faire plaisir un peu. Si vous êtes à l'écoute et vous aimez la formation, ils s'en viennent en spectacle en juillet. L'album Hate qui va finalement sortir le 29 mai prochain.
J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on tease le fait qu'il y a un nouvel album de Shinedown qui va sortir.
Ça devait sortir l'été dernier. Pour une raison qu'on ignore, ça a comme été suspendu. Ça devait sortir ce printemps. Et là, finalement, bon, ce sera le 29 mai officiellement. Il y a des appels au 780-102. On fait ça par texto, OK? Je vous le dis tout de suite. L'album qui s'en vient est donc tourné également. Et Shinedown sera au Centre Vidéotron le 15 juillet prochain avec sa tournée mondiale Dance Kid Dance Act 2. Des invités spéciaux, entre autres, From Ashes to New. Et pour gagner la paire de billets, bien, comme je vous dis, c'est simple. 88-971-1021 texto. Les billets sont en vente sur jestef.com et ticketmaster.ca. J'ai envie de vous demander, il y a combien de chansons de sortie à date sur l'album 8? Parce qu'entre vous et moi, il y en a quand même quelques-unes. Vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone, je fais le gagnant dans les prochaines minutes. Véro, on fait un petit tour d'actualité.
C'est vrai que Britney Spears a été arrêtée?
Arrête!
Je sais pas, c'est le super à TVA.
Mais oui, toi, Britney Spears arrêtée en Californie. Oh. Conduite en état d'ébriété. Et dans ma tête, elle pouvait même pas avoir de permis. Cette pauvre femme. Et non, mais avez-vous vu ses réseaux sociaux dernièrement? Elle est comme de retour.
Ça fait de la peine. Honnêtement, ça fait de la peine.
Ah, ça n'a aucun sens. Cette fille-là.
Elle va pas bien.
Oui, je ne l'ai pas vu passer. Elle a été arrêtée mercredi soir et a été mise en détention tôt le lendemain matin sans que de charges soient retenues contre elle.
Une pensée pour Kevin Federline, son ex qui a écrit un livre cette année. Puis c'est une des personnes les plus détestées, Kevin Federline, le pauvre. Et il disait, j'écris un livre parce que j'ai besoin de donner ma version des faits, parce qu'éventuellement, il va se passer quelque chose. Mes enfants vont devoir faire face à ça. Puis il faut que j'aille expliquer ma version des faits avant. Puis je pense que ce à quoi il faisait référence, c'est que vraiment, elle l'échappe, là, puis qu'elle pogne le mur, malheureusement.
Mais non, mais il y a un gros problème de santé mentale. Tu regardes juste ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, c'est même pas... c'est pas dans sa façon de véhiculer toute information. Il y a pas... En fait, elle dit rien. Elle met de la musique, elle danse à moitié tout nu avec des couteaux.
Avec des couteaux, oui.
Puis c'est chiant. Je veux dire, le maquillage qui coule.
Elle a pas l'air de bien aller.
Non, c'est vraiment... ça fait de la peine, pour vrai.
Il y a des vraies nouvelles dans l'actualité. On s'est parlé quand même pas mal de Saint-Roch puis des demandes du maire Marchand en lien avec la prochaine campagne électorale provinciale. Du côté de Lévis, j'imagine qu'eux aussi vont avoir besoin d'argent. C'était un brefage technique sur l'état de la situation des usines de traitement des eaux usées. Et là, je le dis au pluriel parce qu'on a parlé beaucoup de celle de Saint-Nicolas. Puis, tu sais, il y a un lien direct entre ça et le moratoire qu'on a imposé sur les nouveaux développements dans le secteur de Lévis. Mais aussi l'usine de traitement des eaux usées de Desjardins qui ne fournissent plus à la demande. Et ce que la Ville a présenté aujourd'hui, c'est des besoins d'investissement de plus de 155 millions de dollars d'ici 2029. On a déjà un peu placé le terrain en disant que ça va être une grosse pression sur les citoyens. Moi, être citoyen de Lévis, je serais un peu bleu marin. Que quelque chose qui était su par l'administration à Lévis, parce que les premiers échos de ça provenaient du contentieux. Je vous le rappelle, en 2021, il a dit « Hey, on est en train de dépasser la capacité des usines de traitement des eaux. Si on se fait pogner par le ministère de l'Environnement, ça va nous coûter cher. » C'est pour ça que c'est le contentieux qui avait parlé en premier et qu'il n'y a eu aucune action qui ne soit posée avant le moratoire, puis que ce soit grâce à un média, en l'occurrence Radio-Canada, qu'on sache une des raisons pour lesquelles ce moratoire-là était urgent, parce qu'on n'est pas foutu de traiter les eaux usées pour répondre aux besoins actuels de Lévis. Et là, c'est des montants qui sont très importants, qui sont donc demandés. En fait, la capacité qu'on a atteint là, c'est celle qui avait d'abord été prévue si la croissance se maintenait en 2046. Puis on l'a vu, le boom du côté de Lévis. Puis pendant des années, quand ici à Québec, on s'obstinait sur le tramway, puis sur le SRB, puis sur un tas d'affaires, les citoyens de Lévis nous écrivaient tous « Ah ça, nous autres, on est tellement bien à Lévis, ça se développe bien, le taux de taxation est bas, tout est beau, tout est parfait. » Il y en a plusieurs qui s'amusaient à dire dans les derniers mois « Ah, vous avez élu Marchand, restez poigné avec. » J'ai l'impression qu'ils vont avoir de très mauvaises surprises au cours des prochaines années.
Quand c'est trop beau pour être vrai, là, les taxes qui sont basses, le développement, il n'y a pas de problème.
Mais je pense
que ça peut bien se faire, des développements fulgurants, mais là, c'est sûr qu'on n'avait pas augmenté grand-chose de ce côté-là.
Développer, avoir besoin d'infrastructures, mais pas monter les taxes. Tu sais, il faut quand même savoir que les taxes, on s'est habitué à cette espèce de barème de « il ne faut pas que ça soit en haut de l'inflation ».
C'est vrai.
Mais les dépenses des villes, c'est en haut de l'inflation. On peut bien se faire désaccroire, mais éventuellement, la facture arrive. Puis c'est ça qu'on vit présentement à Lévis.
Donc, la ville qui a été questionnée, justement, à savoir, hey, vous n'avez pas été capable de voir venir tout ça, cette situation-là. Mais comme c'est judiciarisé, comme il y a des promoteurs qui ont choisi de poursuivre la ville de Lévis en lien avec le moratoire, bien, on a été avare pour ce qui est des réponses.
Gilles Loury, es-tu sorti d'une façon ou d'une autre pour se défendre?
La semaine passée, il l'avait fait, entre autres, sur le moment de mettre le moratoire en disant c'était la chose responsable à faire à ce moment-là. Le directeur général de la ville est celui qui était là sous Gilles Loulier aussi. Puis tu sais, actuellement, parce qu'il y a des éléments qui vont aller en cours, c'est comme si la ville avait la possibilité de se draper là-dedans plutôt que de répondre aux questions.
Il y a un texto qui est entré. Si on veut aider Lévis, il faut faire nos besoins avant de traverser le pont.
C'est pour ça qu'ils vont te prendre. Pour venir ici. Vous n'avez pas compris, c'est pour venir aux toilettes ici.
Oh,
fait qu'à l'usine de Saint-Nicolas, c'est un 79,7 millions qui est nécessaire pour ce qui est de celle du secteur Desjardins. C'est un 75,5 millions de dollars. C'est du stock. Dans la dernière année, il y a eu 200 dérivations sanctionnables à l'usine de Saint-Nicolas à cause du manque de capacité de l'usine. C'est une augmentation. Par rapport à 2003, il y en avait eu 133. Fait qu'en tout, c'est 23 % de l'eau reçue à l'usine qui a été rejetée sans être traitée. On avait parlé de 15-16 % dans les derniers articles. Ben non, mais c'est parce qu'il y a une croissance. Il y a plus de monde qui se sont installés, même si même si tu n'as pas continué à construire, il y avait des secteurs où les gens commençaient à emménager puis tout le kit. Fait que c'est carrément la situation au moment où on se parle. Pour ce qui est de l'usine Desjardins, si on n'a pas été en mesure de donner les chiffres ce matin, on ne les avait pas. Il y a eu une collision cette nuit sur l'Avent à la hauteur de Saint-Janvier-de-Joly, donc dans Chaudière-Appalaches, et c'est des poids lourds qui ont été impliqués là-dedans. Puis quand la SQ est sortie, ils ont raconté qu'il y en avait un qui était immobilisé dans l'accotement. Il aurait voulu intégrer la voie au même moment où un autre camion lourd passait dans la voie de droite, qui n'aurait pas été en mesure de changer de voie. Fait qu'il y a eu un accident, son conducteur a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures. Il y avait un enfant à bord de ce deuxième camion-là. Heureusement, il n'a pas été blessé. Mais le véhicule fautif se serait immobilisé un peu, puis après ça, aurait sacré le camp. Ils l'ont trouvé dans le secteur de Baie-Saint-Paul.
Voyons.
Fait que lui, il a comme continué sa best life.
Comme si rien n'était.
Comme si rien n'était. Jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. On avait d'ailleurs dû fermer la vingt partiellement pendant une portion de la nuit. Le conducteur qui a été rencontré par les enquêteurs, puis on a analysé la scène, bien sûr, où ça s'est déroulé. De même que le camion qui avait été retracé dans le secteur de Baie-Saint-Paul. Il y a aussi, j'ai vu les images, je les avais pas vues tantôt, le conducteur qui a percuté de plein fouet, le devant d'un restaurant pizza dans le secteur de Charlebourg, il est rentré pas à peu près.
Ah ouais, hein?
T'sais, là, on parle peut-être de distraction, mais le gaz au fond même, c'est une solide distraction.
Une distraction, c'est quoi? C'était sur ton téléphone? Ben, tu gosses sur ta radio?
Ça, ou tu changes de tune sur ton écran, ou en même temps quand tu te trompes de plein pédale. Fouet. Il y a de quoi qui va pas, là.
T'as pas juste accroché.
C'est une personne âgée, on sait-tu?
Tu vois, on n'a pas ces informations-là par rapport à l'automobiliste qui a foncé dedans. Je vais vérifier si on a eu plus de détails là-dessus. Mais absolument pas. Heureusement, la personne qui était dans l'auto n'a pas été blessée. Puis comme il était 11 heures, il n'y avait personne qui se trouvait à l'intérieur du Pizza Hut. Il a fallu qu'on évacue les commerces aux environs parce que le mur de briques s'était en partie effondré. Puis qu'on s'est dit, hey, au cas où il y a de quoi sur la structure, mais pour le reste, aucun problème. Il y a quand même une fuite au niveau des installations de gaz. Donc, plus de peur que de mal et beaucoup de questionnements à savoir à quel point tu es ailleurs pour foncer de même dans un mur de briques. Dominique Leblanc qui va se rendre à Washington, il est le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. C'est demain. Il y aura une série de réunions. Puis, le timing est important. D'abord, il y a Mark Carney qui, hier, en conférence de presse, avait parlé de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis qui, à court terme, était rompu par les mesures prises par les États-Unis parce qu'on sait que certains produits sont protégés par la CEOM puis que malgré tout, il y a des tarifs qui ont été mis là-dessus. L'autre élément, c'est que c'est la première rencontre depuis que les tarifs ont été jugés non légitimes par la Cour suprême, mais aussi qu'hier, il y a eu une sortie, encore une fois, de la justice pour dire « Ouais, les entreprises qui ont payé en trop en tarifs, parce que oui, c'est les entreprises qui paient les tarifs, vont pouvoir aller les rechercher au gouvernement. » Puis les premiers qui étaient sortis, c'était plusieurs milliards de dollars qui pouvaient aller
ça
redemander.
Ça va créer un bordel pas possible, cette affaire-là.
Oui, parce que, tu sais, on s'est parlé beaucoup aux États-Unis de tout ce qui était budgétaire, puis il y a eu des affaires assez compliquées. Là, quand tu dois ressortir de l'argent des coffres pour aller redonner ça, ça va être tout que de la gestion à court terme.
Puis le président a promis des baisses d'impôts avec ces revenus-là en passant.
Mais là, il ne pourra pas les combler. Là, il y avait un autre tarif qui devait embarquer là-dedans, mais ça aussi, ça va être challengé. Fait que ce sera une rencontre importante à regarder qui se déroulera demain. En terminant, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez renouvelé votre passeport, mais maintenant, le prix du passeport canadien va augmenter chaque année avec l'inflation et ça débutera le 31 mars. J'imagine que ça va créer la cohue pour ceux dont le passeport n'est toujours pas
Comme l'essence cette semaine.
C'est sûr. Mais ça augmente-tu énormément?
En fait, on va suivre l'inflation. La hausse de cette année, puisqu'on n'a pas augmenté le prix des passeports depuis 2013. Ça, c'est l'autre affaire.
Mais là, arrêtons de geler des prix. Parce qu'après, ça fait des chocs tarifaires.
Ben oui.
Puis les gens déchirent leur chemise en disant « ça n'a pas de bon sens ». Oui, mais pendant des années, on l'a eu en dessous. Fait que pour le passeport régulier de 10 ans pour adultes, on passe de 160 à 163,50. Pour un passeport régulier 5 ans adulte, on passe de 120 à 122,50. Qui paye pas le 10 ans quand tu as 40 pièces de différence entre les deux?
Je sais pas. Qui aime aller faire deux fois la bureaucratie plutôt que...
Je déteste ça. Hey.
J'ai l'impression que c'est malheureux, mais que des fois, les gens se sentent vraiment à la ceinture, puis ce petit 40$ de différence-là au moment où on se parle est peut-être pas lousse. Je sais
peut-être.
Pas. Je...
Peut-être.
Mais écoute, je suis du même avis que toi. Là, mais ça fait longtemps, motadine, là, que je l'ai. Là.
Que quoi?
Ben, mon passeport, je l'ai pris 10 ans, puis je me ressemble quasiment plus dessus. Là.
Ça a changé de couleur de cheveux. Y a-tu du bientôt?
C'est pas tant ça, plus que la face qui a des enflures, je te dirais.
Pour ce qui est du passeport enfant, c'est une augmentation de 1,50 $. On annonce aussi également une meilleure efficacité des services de passeport. Moi, la dernière fois, j'ai décidé de fonctionner avec le renouvellement en ligne. Puis ça, c'est quand même particulier. Quand vous allez sur le site pour renouveler votre passeport, on vous indique que les demandes se font à partir de 7 heures le matin, puis ils ont un quota maximal qu'ils peuvent accepter en ligne. Fait que des fois, tu arrives, puis je sais pas c'est quoi l'heure que ça donne, mais ils vont simplement te répondre, ben désolé, on a notre quota pour aujourd'hui, fait que réessayez-vous demain matin.
Fait que tu as fait tout le processus, mettons, mais tu n'es pas capable d'envoyer ta demande.
En fait, dès le départ, quand tu vas cliquer, ils t'avertissent. Ah, fait que tu fais ton processus par la suite, mais ce que ça te prend, c'est que ça te prend une photo qui va être numérique. Fait que tu vas dans un endroit qui va prendre des photos de passeport, mais tu dois t'assurer que ces lieux-là, moi, je suis allée au CAA, sont capables de te fournir ça. Fait que tu as une petite photo de toi, mais c'est un code, puis il va falloir que tu rentres le code pour être capable de le télécharger sur le site. Ça a l'air bien compliqué comme processus, mais honnêtement, ça se fait en quelques minutes à peine.
Ben voyons donc, là, tu parles d'affaires positives qui marchent bien.
Oui, mais
c'est marchand rare, a dit qu'on parlait pas de choses
positives. Non, c'est vrai.
Juste quand ça marche mal.
Non, ça a super bien été pour mon renouvellement de passeport en ligne, puis ça m'a évité d'aller
faire la file.
Quoi qu'on me dise que c'est ainsi, ça va plutôt bien.
Mais nous, on a renouvelé un passeport d'un de nos enfants cet automne, puis ça a vraiment bien été. Puis on n'a pas. Moi, je ne suis pas passée par la demande en ligne. On est allé au bureau de passeport, on a fait nos petites photos à la pharmacie, puis.
Tu remplis-tu tes papiers avant, toi?
Oui.
Oui.
Tu peux-tu y aller bien d'avance? Tu sais, mettons que moi, je suis comme dû dans un an et demi. Je pourrais-tu décider de comme le renouveler tout de suite pour pas me...
Je pense que oui.
Ouais.
Mais à vérifier.
Parce qu'on dirait que c'est étonnant là, qu'à la dernière minute, tu l'oublies et finalement,
tu
es dans le chenot.
Il ne faut pas que tu sois de dernière minute parce qu'il y a des pays qui exigent que le passeport que tu présentes ait encore au moins six mois de validité. Ouais, c'est variable d'une place à l'autre. Puis moi, vu que je partais, je n'avais pas le choix de le faire refaire